Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous. On est ensemble pendant une heure dans l'émission Crème de la Crème, nouveautés, faux concerts et page culture. Au programme, pour la session Info Concert, j'évoquerai ce concert de l'effroyable association sataniste des soviétiques de l'Ouest. C'est ce vendredi 5 avril au Melody Maker où vous retrouverez Billy Doo et Nuance d'Engrais. Avant ça, vous aurez des infos sur le festival L'Ouest Hurlant, festival rennais des cultures de l'imaginaire qui arrive pour sa troisième édition les 4 et 5 mai à La Paillette. Soizig Le Bay a rencontré deux membres de l'association organisatrice. C'est-à-dire que vous retrouverez tout à l'heure Elsa Darouzet-Serrant et Alex Tobillon pour tout nous dire sur l'Ouest Hurlant. Au programme des nouveautés, le disque d'or de la semaine, celui des Irlandais The UFO, et puis on écoutera Dirty Three, Arab Strap, Ben Lupus et Françoise Breu. Sans oublier, pour commencer l'émission maintenant, le vénérable Théo Acola avec ce très beau The Baby Song, extrait d'un album à venir très très vite. Je vous en parle après que vous l'aurez entendu. Bonne émission!
Sung, and I found it in babies, and how I'd never had one. How they're ugly as a trunk, shriveled old man. How on milk they get drunk and puke all over the playpen. And no matter how many times you tell them to abstain, they'll do it again and again and again and again. Self-centered little fiends, they crap wherever they like, then take forever to learn how and where to do it right. And by the time they have teeth and can finally chew, if they don't like their feed, they'll spit it up all over you too. If they don't like anything, they'll wail and whine till they're blue, and your ears will be ringing by the time they're finally through. It's a simple fact of life, a tribulation so true. Babies only care for themselves, but little bastards care nothing for you. But despite the roaring din and boring waterworks, there's something to be said for those nasty little jerks. Something to be said for telling the unvarnished truth. And that's what they're all yelling until their last milk tooth. I want this, I want that, I'm too cold, I'm too hot. I want more, I want less. Happy I am, happy I'm not. Never going in circles except when they try to walk. No beating around the bush and baby straight talk. Truth incarnate and no hint of vanity in this downy concentrate. Concentrate the humanity. Carry them everywhere, sun can't even crawl. And spouting nothing but gibberish, they make no sense at all. The time you waste trying to decipher them, you'll never get it back. And then you have to diaper them, go down the river of baby scat. Tiny tyrants, pint-sized autocrats, exploiting your affections. They abuse your best intentions and leave you regretting sidestepping contraception. That'll teach ya. With her pampered pleas and cries to be coddled and nursed, and their grievance gushing eyes, Lord, babies are the worst. It's a simple fact of life, a sad reality so true. Babies only care for themselves. Babies care nothing for you. Cedar, never be a breeder, never one day multiply. Never know how it feels to hear your very own baby cry. But this is not the end of the world, for the world's long overrun. Better care for those already there, melting in the unfiltered sun. They didn't ask to be here, to survive getting by on the dregs. But the smoking sphere we're leaving them is on its last legs. Oh, those baby blues, greens and browns, those baby giggles and grave baby frowns, those plum baby arms to die for sweet, those good enough to eat baby, baby feet. The capacity to inspire true love supreme, they know all the tricks to keep us caring. They got our number, those cunning drops of gold that we're programmed to want to have and to hold, to feed and clothe and keep from the cold. Oh, horrid despotic dove that we have and have to hold, that the wonder of evolution and our genetic constitution impels, propels, and compels us to love.
Le vétéran américain installé depuis pas mal de temps maintenant en France, vous l'avez entendu avec Orchestre Rouge, vous l'avez entendu avec Passion Fodder. Là, il est en solo Théo Akola avec un nouvel album Chalalala qui arrivera dans quelques semaines, et d'ici là, eh bien, il égrène les singles. Toujours très hanté, je trouve, la musique de Théo Akola. L'album, lui, sortira le 24 mai prochain. Nous poursuivons avec la bruxelloise Françoise Breu. Elle revient avec un nouvel album intitulé, quant à lui, Vif. Ça arrivera d'ici quelques semaines pour le label 62 Records. Et quand je vous dis quelques semaines, c'est 2 semaines. Il sera disponible à partir du 19 avril. On la voit très intéressée par des questions d'écologie. C'était le cas déjà sur le single précédent qui s'intéressait, lui, au vert, oui, au lombric, c'était le titre Aude au vert. Là, elle va nous proposer de crever l'asphalte en compagnie des racines des arbres centenaires, ou même qui ont quelques dizaines d'années. Françoise Breu, crever l'asphalte.
Je me déploie, contourne les obstacles parfois. Des rejetons me poussent bien bas. Je ne les retiens pas, je ne les retiens pas. Ah, ah, Docteur Mac au-dessus de moi se fendit, craque comme le bois. Je fouille le sol de haut en bas, délie mes tiges, déploie mes doigts. Sur le dos, reste d'écailles et vermisseaux, sans queue ni tête, suive le flot. J'entends comme des grésillements, les graines éclatent, tremblent et s'agitent, les vers enroulent leur corps limite, les zones humides font des ruis. Dieu que cette histoire finit mal, on n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent
1992, celui qu'on appelait encore certainement Dominique Année, Dominica donc, sortait le remarquable La Fossette, une sorte de révolution dans ce qu'on appelait la chanson française. Ça allait devenir la nouvelle chanson française quelques années après Benabar est arrivé. Donc finalement, est-ce qu'on doit remercier Dominica? Oui, pour ce qu'il a fait lui-même, ce texte très intimiste, hein, très très personnel, avec cette musique électronique minimaliste. C'était Le Courage des Oiseaux, c'était fantastique et c'était dans La Machine à remonter le son, numéro 60, part 2, consacré donc à l'année 1992. On y reviendra dans la prochaine émission, mais à suivre un héritier plus, sans doute, de Dominica que de Benabar, j'espère en tout cas, un échappé de Coming Soon, cette fratrie, ce collectif folk qui sévissait au milieu, début des années 2000. Là, il revient, cet échappé Ben Lupus, avec un album complètement concept, avec aussi un livre d'illustration qui l'accompagnera. Je vous propose ce titre Kawabunga dans la Swamp par Ben Lupus.
Kawabunga dans la swamp, la rumeur ronfle entre les branches, sur la plage, au petit jour, autour des braises encore rouges, tortue sur des planches, apache embusqué, sioux qui danse, on avance aveuglé dans la brume, il est bien plus tard que tu ne le penses.
Now I'm not falling on my sword, I'm just falling on my shins. Sweet moonshine, wash away my sins.
Big strawberry moon, save my soul. Let my body break, will you stay home?
This city of stairs doesn't want me. I am a ghost with a bottomless cup. I'm not stocious, I'm just hurting. But all I have to do is look up.
Big strawberry moon, save my soul. Let my body break, will you stay home?
So throw on your cloak and come down and join me. Witness my struggles firsthand. I'll stay young and handsome, sleep forever in your light. I'll give you daughters, give you sons, we'll form a band. I'm just dressing for the weather, and the forecast is for pain. The dark listens to the dark, night fosters night. My right rose love keeps me sane.
Aidan Moffat et Malcolm Middleton apparemment vont bien et surtout ils n'en ont plus rien à foutre. C'est le nom de l'album qui arrivera le 10 mai pour le label de Mogwai Rock Action Records. On a déjà entendu hein, quelques-uns des titres de cet album à venir, toujours avec des textes bien personnels et puis des sortes d'hymnes laïques à la louange de son changement constant. Ça ressemble à de la traduction faite par une intelligence artificielle. C'est une phrase qui figure dans le dossier de presse accompagnant la sortie donc de ce single Strawberry Moon. Et l'album, quant à lui, eh bien oui, regroupera ses morceaux entre rockindé, musique électronique. Très, très, très bon ce nouveau single pour Arab Strap. Nous, on poursuit avec là aussi un groupe de superstars. Là, on retrouve presque un super groupe, comme on avait coutume de les appeler dans les années 1970, puisque dans ce groupe vous retrouvez Warren Ellis et puis Mick Turner et puis Jim White. Ils s'appellent les Dirty Three. Ça fait maintenant pas mal de temps qu'ils existent, hein, bien 20 ans au moins. On les retrouve avec un nouvel album qui sortira à la fin du mois de juin, un album instrumental, un album à l'os, vraiment furieux électrique et super bien réussi. Quand je disais que ça faisait 20 ans, non, ça fait 30 ans hein, qu'ils se sont formés à Melbourne en 1992, les trois dégueulasses. Mais je pense pas qu'on les appelle comme ça. Non, on les appelle les Dirty Three. Et on les écoute avec ce titre Love Changes Everything. Ce sera le nom de tous les titres de l'album, mais décliné en plusieurs numéros, hein, bien sûr, qui iront de 1 à 6. Les Dirty Three, et puis juste après, notre disque d'or de la semaine.
We'll be right back.
duo de Dublin en Irlande, The UFO, un gars, une fille et deux albums. Premier album, pas véritablement un album, c'était sorti sur cassette. Un album sorti, lui, il y a 2 ans, il me semble. Et puis, le nouveau disque, Beaming Moments Reflection. Un album psychédélique en diable, hein, véritablement, avec des morceaux plus ou moins rêveurs. Certains plus électriques, plus pleins de riffs que d'autres. Là, vous entendiez à l'instant, dans Crème de la Crème, ce morceau, Surveyor. Dans la page culture de Crème de la Crème aujourd'hui, eh bien c'est Swazi Globay qui s'est intéressé au festival L'Ouest Hurlant qui arrive pour sa 3e édition les 4 et 5 mai prochains à La Paillette. C'est le festival rennais des cultures de l'imaginaire. Elle s'entretient dans quelques secondes avec deux membres de l'association organisatrice, Elsa Darouzet-Serran et Alex Lebihan, qui nous disent tout sur L'Ouest Hurlant.
L'Ouest Hurlant, à l'origine, en fait, c'est un festival qui a été créé par le Laboratoire des Imaginaires. Le Laboratoire des Imaginaires, c'était une association étudiante de chercheurs et de chercheuses qui, du coup, officiaient à Rennes 2 et qui, du coup, ont voulu travailler autour des cultures de l'imaginaire et se regrouper, du coup, former un petit groupe de chercheurs et de chercheuses. À l'origine, du coup, on est plutôt sur des personnes qui font de la recherche en littérature, effectivement, soit de la littérature comparée, soit des langues. L'origine du festival, c'est vraiment les cultures littéraires de l'imaginaire, donc la science-fiction, la fantasy et le fantastique.
Que faites-vous comme différence entre fantastique et fantasy ?
Alors, la fantasy, on est sur généralement un univers qui prend en compte la magie ou le merveilleux. En tout cas, il va y avoir des différences assez plus ou moins fortes avec notre monde à nous. Le fantastique, c'est plutôt, vous voyez les nouvelles de Maupassant, donc c'est l'intervention en fait d'un élément qui n'est pas de notre monde dans un univers qui, lui, a priori, est plutôt réel.
Ouest Hurlant, pourquoi ce nom ?
Déjà parce qu'effectivement, il n'y avait pas de festival de l'imaginaire rennais et l'équipe voulait en fait avoir un ancrage assez local, donc faire quand même référence au Grand Ouest et l'Ouest Hurlant parce qu'il y a un certain nombre de revendications qui sont assez fortes pour le festival. Donc c'est un peu une façon de faire notre place en tant que petit festival engagé à gauche. Vraiment, on est un festival avec des valeurs assez fortes. Et parce que là, c'est vraiment de l'ordre de l'anecdote, mais il y a énormément de festivals dont les noms finissent en hal. Donc il y a les imaginales, il y a les utopiales, il y a les mystériales maintenant, et on voulait changer un petit peu de cette thématique en hal.
Rien à voir avec Métal Hurlant.
À l'origine, non. En fait, ça a été fait remarquer à certaines organisatrices ensuite, et on s'est dit que la référence était bonne à garder. C'est plutôt venu dans un deuxième temps, et c'était pas la volonté initiale de faire référence à Métal Hurlant.
Est-ce que c'est une littérature générationnelle des enfants ? Quand on a vu la multiplication des collections de jeunesse sur la fantasy notamment, et puis après ben, les enfants qui ont grandi, quoi. Donc des jeunes adultes.
Oui, je pense que c'est une littérature générationnelle qui s'inspire d'aussi d'anciennes littératures comme la littérature gothique ou même les mythes antiques. Et du coup, c'est une littérature qui a pris un essor au début du XXe siècle, notamment avec la sortie d'Harry Potter, et du coup qui continue de grossir et de s'étendre à travers le temps, quoi.
Philippe Pullman, je dirais, moi aussi.
Oui, aussi, ouais.
Le festival, il a typiquement été créé d'un constat, c'est qu'effectivement, il y a énormément de productions en imaginaire, il y a énormément d'autrices, il y a énormément d'auteurs qui travaillent. C'est une part de marché qui est grandissante. Et les autrices sont très souvent sous-représentées dans les cultures de l'imaginaire. Il y a énormément d'autrices qui font énormément de choses incroyables. Et généralement, la parité dans les festivals est difficile à atteindre pour des raisons que nous, on a du mal à identifier, du coup, parce que effectivement, des autrices qui font des choses chouettes en imaginaire, il y en a des tonnes. Et c'est un groupe, le groupe qui à la base a créé le festival, c'est un groupe de jeunes femmes vraiment plutôt engagée. Et effectivement, il y a des hommes aussi, bien sûr, à la création du festival. Mais on voulait un festival en fait qui soit féministe, dans le sens où on est généralement en fait à beaucoup plus que la parité, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'autrices que d'auteurs, parce que ça nous semble intéressant de les mettre en avant. Parce qu'en fait, si on les met pas en avant, le public ne va pas forcément aller vers elles, alors qu'il y a des autrices qui font d'excellentes ventes, notamment Audrey Alouette, qui est notre marraine cette année. Elle est vraiment très très reconnue, elle est scénariste de bande dessinée, elle a aussi écrit des romans, elle a fait tout un tas de choses, des romans jeunesse et des romans moins jeunesse. Elle est très connue en fait de tout un tas de gens, mais pourtant on lui avait jamais proposé par exemple d'être marraine d'un festival de l'imaginaire.
Vous allez me parler de votre prochain festival, le 4 et le 5 mai, à La Paillette,
oui.
Avec un parrain et avec une marraine. La parité toujours, donc.
Oui.
Des débats, des rencontres, des recherches. Comment vous organisez ça ?
On est un groupe d'une quinzaine de personnes et on a notre directrice littéraire qui effectivement nous permet d'avoir une ligne. D'ailleurs, c'était déjà elle qui était à la direction littéraire du festival l'année dernière. Et ça nous permet d'avoir une ligne, en fait. Et elle vient nous proposer, parce qu'elle est aussi autrice et parce qu'elle est aussi, notamment dans des cercles engagés pour la rémunération des auteurs et des autrices. Et donc, elle peut nous proposer, en fait, tout un tas de personnes qu'elle connaît de par son métier. Et ensuite, nous, en tant que collectivité, on valide les personnes qui sont présentes, mais généralement il n'y a pas beaucoup de problèmes, parce que comme les gens qui sont dans le festival sont des grands lecteurs et lectrices d'imaginaire, généralement en fait c'est des noms que nous on aimerait bien voir en festival, et donc on les invite aussi parce que il y a une notion de plaisir à découvrir et à faire découvrir, surtout plein de plumes de l'imaginaire.
Est-ce que vous faites une différence entre les auteurs français et les auteurs étrangers, et notamment anglo-saxons ou même belges ? Donc c'est quand même une grande tradition que de l'imaginaire. Est-ce que vous voyez une différence ?
Non, je ne pense pas qu'on fasse beaucoup de différence. Mais c'est vrai qu'on essaie quand même de valoriser aussi les auteurs et les autrices français, parce que les genres de l'imaginaire, c'est un genre dominé quand même par la culture anglo-saxonne, surtout les États-Unis, et du coup... On a aussi envie de mettre en valeur nos auteurs et nos autrices ici en France.
Après, nous, comme on est un petit festival, il y a aussi le fait qu'on a aussi un ancrage local, parce que c'est plus facile pour nous de faire venir des auteurs qui ne sont pas forcément très loin, et parce que c'est tout un jeu de négociation avec les maisons d'édition, parce qu'effectivement, le milieu du livre est quand même en crise depuis un petit moment, et même s'il y a énormément de choses qui sortent et qu'il y a énormément... de gens qui lisent de l'imaginaire, il y a quand même aussi pas mal de soucis monétaires qui font que nous, on aime en fait avoir une ou deux personnalités qui viennent du monde anglo-saxon, qui peuvent apporter une vue différente. Après, on peut pas non plus et on veut pas faire un festival ouvert sur toutes les littératures de l'imaginaire, parce qu'en fait ça fait trop. On essaye d'avoir une programmation qui va pouvoir toucher un public rennais, donc d'avoir des activités en plein air, des choses pour les enfants, des chasses au trésor, des combats, des spectacles d'escrime. On va avoir des expositions aussi. On essaye en fait de faire aussi large que possible, aussi pour donner envie aux gens de découvrir les cultures de l'imaginaire, et ensuite d'aller... Enfin, en fait, il y a des personnes qui vont vraiment venir pour les auteuristes qu'on invite, qui sont des habitués des festivals de l'imaginaire et qui ont déjà plein de connaissances là-dessus. On essaye aussi d'avoir beaucoup de tables rondes, et cette année on va pas mal travailler sur des formats plus type atelier, ou en tout cas des formats plus horizontaux qui sont moins savants, donc avec moins les auteuristes qui parlent et qui débattent, et essayer d'impliquer un peu plus le public. L'année dernière on avait un format qui était interactif, c'était une battle, et du coup on prenait donc deux genres de l'imaginaire et on demandait au public en fait de voter en fonction de ce que les auteuristes défendaient comme point de vue, donc plutôt space opéra ou plutôt steampunk, plutôt Game of Thrones ou plutôt Le Seigneur des Anneaux. On essaye d'avoir des références un peu communes, et ensuite de voir ce que le public choisit. Et ça fait des débats assez chouettes, avec beaucoup de mauvaise foi, mais c'est très agréable en fait.
avez-vous avec les maisons d'édition ?
La plupart du temps, on monte avec eux des partenariats parce qu'effectivement, nous, on a une politique de rémunération des auteuristes qui fait que nous, on prend en charge en fait, le fait que s'ils font des interventions, donc s'ils participent à des conférences, des tables rondes, on les rémunère. C'est le tarif charte, effectivement, pour la juste rémunération des autrices et des auteurs. Généralement, en fait, on participe sur un fonctionnement qu'on espère être gagnant-gagnant parce que, généralement, les maisons d'édition prennent en charge une partie du transport, au moins le transport, et parfois une partie de l'hébergement aussi. C'est ce qui fait aussi qu'on a peu d'auteurs ou d'autrices qui viennent de l'étranger parce qu'effectivement, ça implique, en fait, l'année dernière, on avait eu Hayden Thomas qui faisait une tournée, en fait, en Europe, et donc on avait pu négocier avec la maison d'édition un passage à Rennes, mais c'était pas anticipé par leur calendrier à eux.
Vos moyens de subsistance, des questions qui fâchent maintenant. Subventions, mécénat, comment ça se passe ?
Eh bien, ça se passe, en fait, on établit un budget prévisionnel et effectivement, on a des charges qu'on ne peut pas réduire, donc la rémunération des auteurices, le fait qu'on a un certain nombre de prestataires qui nous aident, l'allocation de la paillette, ce genre de choses. Et ensuite, effectivement, on a appel à beaucoup de subventions. Il y a une partie de l'équipe qui s'occupe de traiter les demandes de subventions et qui accomplissent un travail formidable parce que c'est des dossiers vraiment très longs et effectivement, pour cette année, on s'en sort plus. Plutôt bien. Après, c'est vrai qu'il y a une baisse générale des subventions à la culture qui font qu'il y a certains de nos partenaires qu'on avait les années d'avant qui nous ont dit cette année on va vous donner mais un peu moins ou on va pouvoir prendre que ça en charge, etc. Donc ça nous a poussé à effectivement nous tourner vers du mécénat. Donc on essaye aussi d'avoir des acteurs privés. On n'a pas le choix et donc on fait des échanges de visibilité où on leur propose des contreparties pour qu'ils puissent nous aider pour le festival. On a aussi un appel à dons, mais ça qui est pour le public qui vient parce que le festival est gratuit et à entrée libre. Donc forcément, on génère pas de recettes. Le nombre de gens qui vient ne nous génère pas des recettes particulièrement.
La musique d'illustration à cette discussion entre Swazi Globay et Elsa Darrouzet-Serran et Alex Le Bihan du festival L'Ouest Hurlant qui arrive très vite du 4 au 5 mai à La Paillette. Toutes les infos sur ouest-hurlant.com pour découvrir cette nouvelle édition, la troisième du festival Rennais des cultures de l'imaginaire. L'illustration musicale donc était due à Didier Boquet. Les versions 1 et 2, en tout cas les parties 1 et 2 du Chemin du Silence, telles qu'on les retrouvait sur l'album Eclipse en 1977. Si vous voulez réécouter cette une des versions, en tout cas de ce titre, Le Chemin du Silence, vous trouverez ça sur la compilation Le Kiosque d'Orphée, sortie il y a quelques semaines par le label Born Bad. On poursuit avec la session Info Concert de Crème de la Crème. Un seul événement à vous annoncer dans la session Info Concert du jour de Crème de la Crème, celui proposé ce vendredi 5 avril par l'effroyable association sataniste des soviétiques de l'Ouest qui invite au Melody Maker Binidou et aussi Nuance d'Engrais. On va écouter Nuance d'Engrais pour débuter la découverte de cette soirée. Mélange entre dub, breakcore, musique expérimentale. Attention, ça peut être un peu abrasif. Nuance d'Engrais, vendredi soir au Melody Maker. C'était un extrait d'un titre de Nuances d'engrais de Brest, ambiante pour sac de terreau, breakcore glitch. Voilà comment décrivent l'effroyable association sataniste des soviétiques de l'Ouest la musique de Nuances d'engrais pour Binidou, également invité ce vendredi 5 avril au Melody Maker. Il parle de musique répétitive pour canidés épileptiques, mêlé de free indie et de krautrock. Beau programme, on découvre donc Binidou, si vous ne connaissez pas encore, un extrait d'un album sorti il y a quelques années quand même. Voici Melted Tower, on se retrouvera nous jeudi pour une nouvelle émission qui parlera du Festival National du Film d'Animation qui arrive très bientôt à Rennes. À bientôt pour de nouvelles aventures, ciao !